On va commencer avec la suite des ateliers d'hier. Alors, vous avez eu une demi-heure, tout le monde a débordé un petit peu, donc on va dire 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes, pour réfléchir sur des questions qui permettraient des réflexions beaucoup plus longues que ça. Je ne vais pas essayer de faire le tour de tout cela, parce que sinon on passe tout le temps qu'on a cet après-midi et on n'avance pas plus. Mais je vais juste vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ces trois questions. Alors la première question, c'était pourquoi aussi bien les motivations de la chair que de l'esprit se manifestent-elles le plus dans les relations personnelles? La réponse de base, c'est parce que l'autre, il m'embête. L'autre qui est en face de moi, il m'embête. Ses intérêts entrent en conflit avec les miens. Forcément. S'il est là, ben, il veut prendre mon temps, il veut que j'utilise mon énergie pour lui. Peut-être qu'on est en compétition pour avoir la même chose, peut-être que lui veut être bien vu, etc. Alors, c'est ce qui fait que dans les relations personnelles, parce que ses intérêts entrent en compétition avec les miens, c'est là où ça va faire ressortir le plus mes motivations de fond. Si je suis motivé par l'égoïsme, ben l'autre qui m'embête, l'autre qui entre en compétition avec moi, ça fait ressortir mon égoïsme. Et mon égoïsme fait ressortir le sien. Et ça fait cercle vicieux. En même temps, si je suis vraiment motivé par l'esprit, c'est là, avec quelqu'un en face de moi qui a des besoins et qui entre en conflit avec mes besoins, ça va être l'occasion de manifester la motivation qui est que je fais passer tes intérêts avant les miens. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de l'église locale. On dit toujours, on a besoin de l'église locale parce qu'on se soutient les uns les autres, ce qui est vrai. Mais ça peut être paradoxal, on a aussi besoin de l'église locale parce qu'on s'embête les uns les autres. Et c'est dans ces situations où je vis peut-être mal les gens. Oui, mais dans l'église, il y a un tel, lui, fait ça, puis elle, est comme ça. Eh bien, oui, j'ai besoin de ça. Hein, parce que c'est là où je vais découvrir où j'ai encore besoin de progresser. Ceux qui connaissent mon enseignement depuis longtemps, ce qui veut dire pas mal d'entre vous, vous avez certainement entendu la petite phrase choc qui a fait le tour du monde évangélique. Quand on renverse un bocal, ce qui en sort, c'est ce qui était dedans. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne sais même pas qui l'a inventé. La personne de qui je l'ai appris, c'était un de mes profs d'institut public, il ne l'a pas inventé non plus. N'empêche que c'est un principe spirituel très important. Quand on renverse un bocal, ce qui en sort, c'est ce qui était dedans. Je me fais très facilement des illusions sur mon état spirituel. Mais quand l'autre me renverse, c'est là où ce qu'il y a dans le fond ressort. Parce que je n'ai pas le temps de calculer ma réponse. Quelqu'un me fait quelque chose et je réagis. Mais espèce d'idiot, mais ce n'est pas possible, tu ne veux pas faire... Je suis très embêté parce que je n'avais pas voulu que les gens sachent qu'il y avait ça dans le fond du bocal. N'empêche que maintenant tout le monde le sait. Et soit je le protège, c'est-à-dire je trouve des excuses. Ah oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à cet imbécile-là qui m'a renversé. Ce qui n'est pas vrai. Il est peut-être responsable de m'avoir renversé, mais il n'est pas responsable de ce qui est sorti. Soit je dis, d'accord, Seigneur, je constate là qu'il y a à travailler. Alors, c'est pour ça que les relations personnelles constituent un très bon baromètre de ce que nous avons dans le fond du cœur. Parce que c'est là où les intérêts des autres entrant forcément en conflit par endroit avec les miens, c'est là où je vais découvrir mes motivations de base. Bon, on ne va pas aller plus loin que ça, on pourrait faire tout un cours là-dessus, on ne va pas le faire, mais c'était juste, pas pour vous donner la réponse, mais pour vous donner une lignée de réflexion pour pousser plus loin cette question-là. Deuxième question. Quelle dimension ou quels aspects du fruit de l'esprit je refuse? Quel fruit de l'esprit? Parce que j'insiste que Paul ne nous donne pas une liste de 9 fruits de l'esprit, il nous donne 9 descriptions du fruit de l'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai dit quelles dimensions du fruit de l'esprit me sont personnellement les plus difficiles. Évidemment, ça va dépendre des personnes. Et pourquoi? Ben, ça va dépendre de mon caractère. J'ai dit que pour moi, la douceur n'a jamais été mon point fort. Et c'est donc un des domaines qui est très difficile pour moi, à cause de mon caractère. D'autres vont trouver d'autres domaines qui leur sont spécialement difficiles. Mais c'est une question de caractère. Mais il y a une chose importante à savoir avec ces questions de caractère. Il n'y a pas de bon ou de mauvais caractère en soi. Un caractère est ce qu'il est, il a ses points forts et ses points faibles. Ce qui fait un bon ou un mauvais caractère, c'est ce qu'on en fait. Par exemple, mon caractère, le bulldozer, très convaincu de moi-même, je veux faire des choses et puis j'ai des idées très claires. Ça peut être très utile. C'est un des aspects qui fait mon ministère. Je ne pourrais pas faire le ministère que je fais si j'étais là devant vous. Oui, Jésus nous aime. Alors, je ne sais pas, moi, j'aurais pensé vous parler d'une parabole de Jésus aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Sinon, on peut parler d'autre chose. Hein? D'accord, David est sympa, mais enfin... Alors que quand je viens, je dis, voilà, c'est comme ça. Et je sais très bien que je bouleverse, ou au moins que je secoue l'église évangélique un peu partout. Je le fais exprès. Ça découle de mon caractère. Mais en même temps, ce caractère fait qu'il m'est très facile de passer sur le corps de quelqu'un, ils sont déjà 3 km plus loin, ils vont dire, ah, oh pardon, hein. T'avais pas vu, mais enfin, la prochaine fois, tu dégageras plus vite. Hein. Et puis je continue. Hein. Chaque caractère a ses avantages et ses désavantages. Mon fils, pour ceux qui le connaissent, a le caractère opposé à moi. Il est d'une gentillesse, il est adaptable comme tout. Alors, ça fait que dans l'évangélisation, il est extraordinaire. Il peut vraiment se mettre à la place de la personne qu'il a en face de lui. Il peut... il vit, mais une empathie avec les gens. Il a travaillé pendant un temps comme dépanneur téléphonique pour l'EDF. Donc, les gens téléphonent avec leurs problèmes et puis il est censé résoudre les problèmes. Mais il s'est fait une réputation auprès des gens qui téléphonaient, mais... Dis donc, mais ça fait du bien de vous parler, mais est-ce que tout le monde est aussi serviable et ça? Mais... Il y a même une fille qui lui a demandé, est-ce que vous êtes mariée? Il a répondu non, et ça me va très bien comme ça. Alors, ça fait qu'il est facile à vivre, tout le monde l'aime bien. Mais il ferait un très mauvais directeur d'équipe. Parce qu'un directeur d'équipe doit dire, je tiens à un objectif, et cet objectif est important, et on ne va pas s'en laisser détourner. Il y en a qui sont têtus. Oh, il est têtu, ça c'est mauvais. Non, l'entêtement et la ténacité, c'est la même chose. Alors, un têtu qui dit, moi je tiens à l'évangile, même si tout le monde s'oppose à moi, c'est très bien. N'empêche que, comme je ne sais pas tout, mon même caractère qui fait que je suis tenace dans l'évangile, fait que je suis têtu, avec mes idées farfelues. Et ça fait que quand tu es dans l'erreur, ben, tu risques de t'entêter dans ton erreur autant que tu t'obstines dans la vérité quand tu as raison. Alors, quel est l'aspect du fruit de l'esprit qui était le plus difficile? Ça dépend de ton caractère. Mais le tout, ce n'est pas de dire, mais moi j'ai un mauvais caractère, si seulement j'avais tel autre caractère qui est bon. C'est de dire, comment est-ce que le caractère que j'ai peut être soumis au Seigneur, comment est-ce que le Seigneur peut utiliser le caractère que j'ai avec ses points forts et ses points faibles. Et j'ai les deux. Il y a certains points faibles, notables, qui découlent directement de mon caractère, et il y a certains points faibles, notables, qui découlent du caractère opposé. Quelqu'un qui est beaucoup moins entêté que moi, eh bien, ils se détournent facilement de n'importe quoi. Hein. Les anciens des églises de la Galatie n'étaient pas têtus. Hein. Paul dit, je m'étonne de ce que vous soyez si vite détournés de l'évangile que je vous ai enseigné. Mais nous, on n'est pas têtus. Hein. Quand quelqu'un d'autre est venu enseigner autre chose, on est d'accord. Attends, ça pose problème, ça. Hein? Mais bon, on voit Paul, c'est un entêté. Hein? Là, pour être têtu, il est têtu. Hein? N'empêche qu'il y a eu cette confrontation avec Barnabas. Je ne comprends pas que tu ne rentres plus dans ma vision. C'est moi le chef ici. Et Barnabas dit, pardon, c'est toi le chef? Attends, c'était moi ton formateur quand tu étais stagiaire. C'est moi qui t'ai amené dans l'église de Jérusalem. C'est moi qui t'ai fait venir dans l'église d'Antioche. C'est moi qui t'ai pris avec moi pour le départ de l'œuvre missionnaire. Et tu me dis, toi, que c'est toi le chef? C'est moi le chef ici. Et Barnabas ne comprend pas que Paul ne rentre pas dans sa vision, parce qu'ils ont deux visions différentes. C'est le problème des grands leaders. Et ce qui est bête, c'est que, bon, on ne va pas entrer dans cette discussion-là, mais leurs deux visions étaient valables. Les deux avaient raison dans le débat. Seulement, les deux avaient tort de croire que l'autre devait rentrer dans sa vision. Au lieu de se quitter sur une dispute, mais c'est pas vrai que tu n'es pas d'accord avec, mais c'est pas vrai, ils auraient pu dire, écoute, je constate qu'il y a du très bon dans ce que tu dis. Tu veux former un jeune qui nous a déçus sérieusement, tu crois encore en lui, mais c'est très bien, tu l'as fait avec moi, tu l'as fait avec d'autres, c'est très bien. Seulement, ce n'est pas la vision que j'ai. Moi, j'ai la vision de l'évangélisation commando. J'ai besoin d'une équipe solide où je peux compter sur eux. Alors, l'Église a besoin des deux visions. Toi, tu es plutôt appelé à ça. Moi, je suis plutôt appelé à ça. On se soutient et on va de l'avant, chacun de son côté. C'est ce qu'ils auraient dû dire. Au lieu de dire cela, ils sont embêtés parce que l'autre ne rentre pas dans leur vision. Mais c'est à la fois la force et la faiblesse de tout grand leader. Un leader est tellement convaincu de son truc, mais il ne comprend pas que tu ne rentres pas là-dedans. Tu ne vois pas que c'est bien ce que je fais là, moi? Donc, il ne s'agit pas de changer de caractère, mais de dire, Seigneur, comment est-ce que tu peux utiliser le caractère que j'ai? Comment est-ce que ce caractère peut être soumis pour que dans... Et c'est les domaines du fruit de l'esprit qui me sont difficiles, qui vont me révéler les points faibles de mon caractère, hein? Il y a certains aspects du fruit de l'esprit avec lesquels je n'ai pas de problème. Parce que ça, ce n'est pas un problème de mon caractère. Ou bien c'est un problème que le Seigneur a déjà travaillé. Mais il y a d'autres domaines où je dis, ce n'est pas vraiment facile pour moi. Parce que mon caractère fait que... Et donc, sans changer de caractère, je dois dire, d'accord Seigneur, montre-moi comment le caractère que j'ai, que tu veux utiliser, comment ce caractère... peut être mis à ton service pour que ces points forts soient un atout pour l'Église de Jésus-Christ et que ces points faibles ne deviennent pas un piège pour l'Église de Jésus-Christ. Puis la troisième question, qui va d'ailleurs introduire la suite de ce qu'on va voir cet après-midi, même si on va faire une interruption pour voir s'il y a des questions suite à ce matin. Dans quelle mesure est-il possible d'être motivé à la fois par le fruit de l'esprit et par les œuvres de la chair? C'est forcément possible d'être motivé par les deux en même temps, parce qu'on l'est tous. Tous, sans exception, si on est au Seigneur. La chair est encore là. C'est encore facile de vivre dans l'orgueil, de vivre dans les disputes, de vivre dans le moi d'abord. Et en même temps, je veux que le Seigneur transforme mon cœur et qu'il n'y ait rien en moi. Mais... dans quelle mesure est-ce possible? Il n'est pas possible d'être profondément motivé pour les deux à la fois. C'est là où on trouve la limite. Je peux dire, soit, oui, le fruit de l'esprit m'intéresse, j'aimerais bien avoir ces qualités-là, mais bon, ma motivation première, c'est pour moi. Alors, à ce moment-là, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. C'est un inconverti qui trouve bien sa place dans l'Église, ça existe. Hein? Moi, j'en ai fait partie pendant des années. Hein? Un inconverti qui me trouvait bien dans l'Église évangélique pour des mauvaises raisons. Et puis, mais ce qui me motivait, c'était le péché, moi d'abord. Ou bien, tu dis, ma motivation principale, c'est le fruit de l'Esprit. Seigneur, je veux avancer avec toi, mais je constate que l'œuvre de la chair est toujours là. Donc, on va voir que forcément, les deux sont là en même temps, mais on ne va pas poursuivre activement les deux en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Soit je veux avancer avec le Seigneur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, brise-moi s'il faut, Mais Seigneur, fais que je ressemble de plus en plus à ton cœur, ou bien l'Église, je veux bien, parce que bon, d'abord, je ne veux pas brûler en enfer. En plus, Dieu, il est quand même pratique dans une vie, parce que quand j'ai une difficulté, c'est quand même utile de pouvoir dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Je crois que toi, tu peux arranger les choses. Mais dans l'ensemble, je poursuis quand même ce qui m'intéresse, hein, moi d'abord. On peut avoir l'une ou l'autre de motivations de base, mais pas les deux en même temps. Donc, ne croyons pas qu'on va tout surmonter tout de suite. On sera toujours, enfin, tant qu'on est dans cette vie, on sera toujours tiraillé entre les deux. Mais que cela ne devienne pas une excuse pour dire, de toute façon, il paraît que le péché est toujours là, donc on va vivre ça aussi. Alors, je choisis. Et quelque part, il faut choisir. Vous connaissez, peut-être que vous avez vu, sinon vous avez certainement vu à la télé, ces acrobates de cirque qui se mettent debout sur deux chevaux, un pied sur chaque cheval, et puis tournent. Tra-tra-tra-tra-tra-tra. Ça marche uniquement parce que les deux chevaux sont rigoureusement entraînés à rester ensemble. Mais si les deux s'écartent, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils tombent. Si tu as un pied dans le monde et un pied dans l'Église, tôt ou tard, ça s'écarte. Au moins, d'être dans une église qui est tellement proche du monde que ça ne s'écarte pas. Et là, ce n'est pas utile. C'est intéressant de comparer les lettres aux églises de l'Apocalypse. Sur les 7 églises, il y en a 5 qui vivent dans une mesure ou une autre de la persécution. Ce qui veut dire que même à cette époque-là, il y a 2 églises qui ne vivaient pas de persécution. C'est les 2 églises les plus compromises. Ben oui. Tellement compromises, l'église de Sardes, où il dit, tu as la réputation d'être vivante, t'es morte. Mais ils n'ont pas de persécution. Évidemment, si t'es suffisamment compromis, tu n'embêtes plus le monde. D'accord, mais enfin, là c'est plus ça. Hein? Mais si vraiment tu veux avancer avec le Seigneur et tu veux avancer avec le monde, ben, les deux chevaux, ils s'écartent tout de suite, là. Hein? Tu choisis l'un ou l'autre. Tu ne peux pas être debout sur les deux. Hein? Alors, ça donne quelques pistes de réflexion sur ces questions. Ce n'était pas des questions faciles, je le reconnais. Hein? C'était des questions qui pourraient être des réflexions de base d'un thèse doctorale pour un théologien qui peuvent être à la base d'une conférence d'église qui va durer une semaine, ça peut être une réflexion d'une vie. Mais c'était pour vous pousser à voir certaines applications pratiques de notre sujet de ce week-end. Alors, sans prendre tout notre temps pour cela, mais suite à cela et à ce qui a été dit ce matin, est-ce qu'il y a des questions? Et j'aimerais limiter cela au grand maximum, à, on va dire, 20-25 minutes, parce que j'ai quand même un dernier volet à présenter. Mais s'il y a des questions sur cela, c'est quand même utile de prendre le temps, parce que dans les ateliers, il n'y avait pas l'occasion de me poser des questions, et puis ce matin, la structure du culte ne permet pas bien de poser des questions, d'autant plus qu'on était chronométré. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui vous vient à l'esprit suite à tout ça?
De travailler à son salut.
Oui.
Est-ce que c'est embêtant, parce que en fait, le salut, on dit qu'il est gratuit.
Le salut quoi?
Le salut, on dit qu'il est gratuit.
Oui.
On dit que le salut est gratuit et la parole de Dieu, ben, Pierre nous dit qu'il faut travailler à son salut. Donc,
oui. Alors, la question, je le répète d'une part parce que c'est enregistré, je crois, et d'autre part pour que tout le monde l'entende. La question, c'est cette histoire de travailler à son salut, alors que le salut est gratuit, pourquoi faut-il y travailler? Là, on est dans le même paradoxe que ce qu'on a vu ce matin. À la fois, c'est tout de Dieu, c'est gratuit, ça me tombe dessus, Seigneur, j'accepte ton salut par la grâce. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, moi, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et en même temps, il faut que je dise oui, il faut que je sois activement d'accord. Et il faut aller de l'avant avec cela. Et on ne peut pas résoudre cela. Quelqu'un, en illustrant cela un petit peu dans un autre domaine, mais qui avait parlé de ces deux vérités, l'œuvre souveraine de Dieu qui fait tout, et puis la responsabilité de l'homme qui s'active là-dedans, il dit c'est un peu comme quelqu'un qui part en vacances et qui n'a qu'une valise. Bon, c'était à l'époque où on utilisait surtout les valises. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'autres choses. Mais il y avait des valises. Il n'y a qu'une valise. Alors, il y en a qui essaient de mettre toutes ses possessions dans la valise marquée l'œuvre souveraine de Dieu. Et il met dedans ce qu'il peut, mais tout ne rentre pas. Donc, il le ferme et puis il prend son ciseau et il découpe tout ce qui dépasse. Et l'autre essaie de partir en vacances avec une valise marquée la responsabilité de l'homme. Et puis lui, il essaie de tout mettre dedans et tout ne rentre pas. Donc lui, il découpe tout ce qui dépasse. La seule solution, c'est de prendre les deux valises et de reconnaître qu'à la fois, le salut est un don gratuit, entièrement gratuit, c'est entièrement pas grâce. Et attention, c'est même pas que Dieu a tout fait, mais moi, j'ai dû dire oui. Même le fait de dire oui, c'est une grâce, parce que sinon, on tombe dans le piège de dire « j'ai quand même donné une meilleure réponse que l'autre ». Seulement, cela nous conduit tout droit à une hérésie qui rend Dieu responsable de la perdition de ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que si c'est entièrement de lui, ben il pourrait sauver tout le monde. S'il ne le fait pas, la Bible dit « celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas, pour lui c'est un péché », donc ça rend Dieu responsable du péché. Il pourrait sauver cela, il ne le fait pas. Donc, on dit « c'est entièrement de lui, mais entièrement ». Et en même temps, j'accepte ma responsabilité personnelle, j'accepte le fait que j'ai à dire oui, et que j'ai à progresser, et que j'ai à aller de l'avant. Et ça aussi, si on n'a que ça, ça conduit tout droit à une hérésie, qui est l'hérésie du mérite dans le salut. J'ai quand même fait le nécessaire, Seigneur, tu as de la chance d'avoir un gars comme moi, attends, tu vois tout ce que j'ai fait, puis je suis fidèle, et puis, etc. Et au lieu de compter sur la grâce, je compte sur moi. Donc, les deux aspects de l'enseignement biblique impliquent des hérésies si on les sépare de l'autre. On est obligé d'accepter les deux et de dire la résolution, eh ben, ça fait partie des questions que je vais poser quand j'arrive là-haut. Et j'espère que le Seigneur saura me l'expliquer. C'est sûr que lui le comprend, mais est-ce qu'il saura me l'expliquer? Parce qu'il faut bien se dire que même dans l'éternité, je ne serai pas omniscient, je ne vais pas devenir Dieu. Hein? Ma petite tête humaine n'a pas la capacité physique à contenir l'omniscience. Donc, il y aura peut-être certaines choses que même dans l'éternité, je serai obligé de dire, je fais confiance à Dieu, je comprends cela. Il n'empêche que je vais lui poser la question. Hein? Je suis sûr qu'on aura certains éléments de réponse. Est-ce qu'on aura la réponse à tout? Ce n'est pas dit. Mais pour l'instant, je dis, j'accepte. Il faut travailler à son salut. Pourtant, le salut m'est donné entièrement comme un don gratuit que j'accepte en disant, mais merci Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Rien, je te le donne. Merci. Et en même temps, je dis, je le poursuis très activement, je le mets en œuvre, je vais de l'avant avec cela, je le pourchasse comme un persécuteur, sans que ça revienne à moi, sans qu'il revienne à moi quelque mérite que ce soit. Christophe avait une question à...
Il y a un verset dans la Bible qui dit que les choses cachées sont à notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous.
Ben oui.
Donc, est-ce que de là, on peut dire que Dieu ne va pas forcément nous révéler tous les secrets?
Une chose qu'on peut dire, quand il est dit que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées, c'est pour nous, c'est qu'au moins ici, il y a des choses cachées. Et ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Dieu ne nous a pas tout révélé.
Donc, s'applique à la terre seulement.
Ça, on ne peut pas le dire. Mais on peut dire, au moins ce qui est sûr, c'est que ça s'applique à la terre. Ça, c'est sûr et certain. On sait qu'il y a des choses qu'il n'a pas révélées. D'ailleurs, on a un exemple dans la Bible. Dans l'Apocalypse, quand les sept tonnerres ont sonné, il commençait à l'écrire, on dit, marque pas ça. Hein? D'accord. Donc, on sait qu'il y a eu une manifestation divine et qu'on a dit, ça, il ne faut pas la révéler. D'accord. Maintenant, la question devient, une fois dans l'éternité, quand nous connaîtrons tel que nous avons été connus, est-ce que ça veut dire qu'on saura tout? Je ne suis pas persuadé de cela. Je sais que ça se dit souvent, mais je ne suis pas persuadé de cela. Une chose que je sais, c'est que c'est dans la nature de l'homme d'être dépendant de Dieu. Dépendant veut dire...
Et de rester.
Oui. Dépendant veut dire j'ai besoin de lui. Et ça, c'est avant la chute. Hein? L'être humain ne peut pas tout savoir. Donc, pour fonctionner correctement, on a besoin, absolument besoin de deux choses. On a besoin de quelqu'un qui sait tout, et ça ne peut être que Dieu, et on a besoin d'une pleine confiance dans cette personne qui sait tout pour accepter ce qui nous est révélé. Ça, c'est la nature de l'homme. Ce n'est pas suite au péché, c'est la nature de l'homme. Parce que moi, j'ai un petit cerveau alors que Dieu, il sait tout. Donc, je dois vivre dans la dépendance. Évidemment, par le péché, nous refusons cette dépendance. Déjà, je ne suis pas convaincu que Dieu existe, ou s'il existe, je ne suis pas convaincu qu'il sait tout, parce qu'il a fait quand même beaucoup de bêtises dans ce monde, je vois. Ou bien, je n'ai pas confiance en lui. Oui, peut-être qu'il existe et qu'il sait tout, mais enfin, moi, pas convaincu de cela. Ou les deux. On vient au Seigneur, ça commence à se mettre en place. Quand on entre dans l'éternité, on peut dire, l'état qui est perdu par le péché n'existe plus. Mais même dans l'éternité, on sera toujours dépendant de Dieu. Attention, le but dans le péché, aussi bien le but de l'homme dans Genèse que le but de Satan révélé dans Ésaïe, c'est d'être comme Dieu. Satan a dit dans Ésaïe, je veux être comme le Très-Haut, et il a proposé aux hommes dans Genèse 3, vous serez comme Dieu. Or, le salut n'est pas la mise en place du péché, d'être comme Dieu. On ne sera pas Dieu et on ne sera pas comme Dieu. Donc, c'est tout à fait possible que ça s'applique, même dans l'éternité, mais certainement pour beaucoup moins de choses. Il y aura certainement beaucoup de choses qu'on va comprendre. Peut-être qu'il y a certaines choses où on mettra encore du temps pour les apprendre, si on peut parler du temps dans l'éternité. Il y a énormément d'inconnus dans cela. Mais bon, si... il faut une éternité pour apprendre quelque chose, on peut dire, ça va, j'ai une éternité pour apprendre. Hein. Quelqu'un a dit que le suisse-allemand, c'est la langue du ciel, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre. Donc, au ciel, je vais apprendre le suisse-allemand. Pour l'instant, c'est un peu douteux. Hein. Pourtant, je l'ai entendu, hein, parce que ma femme parlait ça avec les enfants tout le temps quand ils étaient petits. Hein, alors, Mais bon... il y a des choses que surtout maintenant nous devons accepter, mais nous devons aussi accepter que peut-être certaines de ces choses, même dans l'éternité, on ne les comprendra pas. Hein. Seulement dans l'éternité, on n'aura plus aucun problème pour dire « j'ai pas besoin de comprendre, je fais confiance à quelqu'un qui comprend ». Certains, il y a longtemps, sont partis sous terre avec moi. Ou dans des gorges, et ils n'avaient pas besoin de savoir tout ce que je faisais. Pourquoi tu fais comme ça? Est-ce que ça... Bon, moi je fais l'installation, on me fait confiance, David dit que, j'espère qu'il a raison, allez on y va, et vous êtes tous sortis vivants, hein? Donc ça va. Hein? pareil, on peut faire confiance à Dieu en disant je ne comprends pas, mais j'accepte. Je dirais même, la mesure de ma confiance en Dieu, c'est que j'accepte ce que je ne comprends pas. Parce que si je n'accepte que ce que je comprends, ma confiance n'est pas en Dieu, mais dans ma compréhension. C'est un peu le problème d'Abraham dans Genèse 18. Seigneur, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et puis au bout d'un moment, manifestement, Abraham n'est pas entièrement rassuré, mais il est arrivé à dire, d'accord, j'ai compris que tu es bon et que ce que tu fais sera juste, même si j'ai encore des interrogations. Et d'ailleurs, un des textes que j'utilise très souvent dans des situations où je suis troublé par rapport à l'œuvre de Dieu vient de ce texte, Genèse 18, 25, où Abraham dit, « Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon la justice ?» Et combien de fois je me dis cela, « Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon la justice ?» Même quand je dis, bah, « Attends Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ci et puis cela ?» Et puis, je ne sais pas, mais j'ai confiance que celui qui juge toute la terre agira dans la justice. Et peut-être que certaines de ces questions que je me pose maintenant, mais qu'est-ce que le Seigneur va faire avec tous ces bébés qui sont avortés, que je trouve que c'est affreux là, de tuer tant de millions d'enfants avant même qu'ils naissent. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cela? Alors pour certains, la réponse, c'est simple, tous ceux-là, ils vont directement au ciel. Ben, à ce moment-là, on devait être les premiers à favoriser l'avortement. Attends, ça fait plein de gens qui sont sauvés. Pourtant, on s'oppose à l'avortement et on a raison. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cela? Ah ben, ils n'ont pas eu le temps de se convertir, ils sont perdus. Attends, c'est pas normal. Je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais j'ai une pleine confiance que celui qui juge toute la terre agit selon la justice. Et je suis persuadé que le jour où je découvrirai, je vais dire, ah ben dis donc, ça c'est encore mieux que toutes les possibilités que j'avais imaginées. J'aurais jamais pensé à ça. Ben non, tu n'aurais pas pensé à ça. C'est pour ça que je suis Dieu et que toi tu ne l'es pas. Et que c'est très bien comme ça. Donc, malheureusement, même un théologien doit arriver à dire, il y a des choses que j'accepte et où je fais confiance et je n'ai pas toutes les réponses. Je me rappelle toujours d'une parole d'un de mes profs de l'Institut biblique qui a dit « Les trois quarts de la théologie consistent à donner une réponse humaine à des questions où Dieu n'a pas révélé la réponse. » Donc, et c'était à mon avis le meilleur prof que j'avais. Hein. C'était le seul qui, à mon avis, savait vraiment réfléchir et pas simplement recracher la bonne théologie qu'il avait apprise. Et la raison. Donc, il y a beaucoup de choses où je dis aujourd'hui, d'accord, j'accepte. Au moins pour l'instant, il y a beaucoup de choses cachées qui appartiennent à Dieu. J'accepte de vivre dans le paradoxe. L'apôtre Paul lui-même vit dans ce paradoxe, dans un autre domaine. Dans Romains 8, il dit, je ne comprends pas la situation que je vis. Je suis transformé, il dit, dans mon esprit, je suis esclave de la loi de Dieu. Là, il décrit la conversion. Il dit, mais dans mes membres, je constate une autre loi. Il dit, je ne comprends pas. Alors, si Paul lui-même ne comprend pas, je dis, ouf, je ne suis pas le seul. Hein. Je ne comprends pas comment, malgré le Saint-Esprit qui est en moi, cette motivation de la chair est toujours là. Il y a un truc là. Mais j'accepte. J'accepte de ne pas tout comprendre. Colette.
Peut-être bête, mais est-ce que c'est bien Dieu qui a dit qu'il nous donne le vouloir et le faire?
C'est Dieu qui dit qu'il nous donne le vouloir et le faire.
D'accord. Donc quand tu dis que nous devons accepter que Dieu fait sa part, que nous avons une part,
je ne l'ai pas dit exactement comme ça.
Tu es donc poursuivi. On doit mettre tout en œuvre.
Oui.
Mais là aussi, il y a le pouvoir, la grâce de Dieu qui fait qu'il touche nos cœurs pour qu'on se mette en œuvre.
Tout à fait. Dieu donne le vouloir et le faire. Et ma motivation vient de lui. Mais, même avec cela, si on le pousse trop loin, on tombe dans l'hérésie. Parce que si Dieu donne ce vouloir et ce faire indépendamment de tout ce qui est en moi, logiquement, il pourrait le faire pour tout le monde. Ce qui fait que tous ceux qui ne se convertissent pas, c'est parce que Dieu n'avait pas voulu. Et ça le rend responsable de la perdition des autres. Donc, c'est vrai, ce texte, mais ça ne fait que rajouter un élément au paradoxe. On reste toujours avec le même paradoxe. Tout vient de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas cette formulation « Dieu fait sa part et moi je fais ma part ». Moi je dis à la fois « Dieu fait tout, mais absolument tout, pas sa part, il fait tout. » Et en même temps, je dois faire comme si tout venait de moi. Pourtant, c'est clair que tout ne vient pas de moi. Et j'accepte les deux.
Dieu donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous jetons la semence en terre, nous labourons, nous herçons, nous arrosons, on désherbe. Et Dieu fait croître.
Bah oui.
Et il amène à la moisson. Et nous, nous moissonnons.
Bah oui.
C'est un travail de collaboration.
Dans un sens. Oui, dans un sens, nous sommes collaborateurs avec lui. Mais il faut aussi voir dans quel sens c'est dit. Si par exemple, je suis, admettons, mécanicien automobile. Et que mon fils, il a 4-5 ans, et puis il voit papa travailler tout cela. Il dit, mais papa, je peux t'aider. Il dit, je peux t'aider. D'accord, alors tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire cela. Et puis lui, il va rentrer à la maison, il dit, maman, papa et moi, nous avons réparé la voiture. D'accord, il a collaboré avec moi. N'empêche que j'aurais pu très bien me passer de son aide. C'est pas que sans lui, j'aurais jamais réussi la chose. Et je constate de plus en plus que le ministère est comme ça. C'est pas que, heureusement que je suis là pour faire ce qu'il y avait besoin de faire. J'ai de plus en plus l'impression que Dieu m'a fait la grâce de m'incorporer dans ce qu'il faisait. Je suis collaborateur avec Dieu. Mais en même temps, c'est pas que ensemble, on a réussi des choses qu'aucun de nous n'aurait réussi tout seul, quoi.
C'est curieux quand même parce que qui c'est qui l'a cité tout à l'heure ce verset. Votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. C'est toi, Vincent, non, qui l'a dit. En fait, nous-mêmes, nous ne pouvons strictement rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Bah oui.
Pourtant, pour dire ça, il faut qu'on fasse notre part.
Bah oui.
Dieu dit aussi, je cherche un homme qui se tient sur la brèche.
Tout à fait.
Mais d'un autre côté, on peut constater ceci, c'est que dans le monde musulman, Dieu se passe des missionnaires. Il donne des révélations directement aux gens.
Ça arrive, oui.
Donc, j'adhère à ce que tu dis que, en fait, Dieu n'a pas besoin de nous. Enfin, oui et non. Le texte dit, vous êtes des serviteurs de peu d'utilité. Et c'est clair que Dieu peut se passer de nous.
Ah oui?
Donc, c'est une grâce d'avoir un ministère, en fait.
Bah oui.
Et lui aussi, il donne les ministères.
Bah oui.
Il donne les dons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez témoins.
Et en même temps, on constate que dans notre ministère, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, ça a des vraies conséquences. Et on revient à ce même paradoxe. On n'arrive pas à faire la part des choses, à comprendre le rôle de Dieu et le rôle de l'homme, et nous devons accepter à la fois deux vérités qui semblent se contredire. Tout est de Dieu, par Dieu et pour Dieu, c'est entièrement de lui, c'est entièrement par grâce, et en même temps, je dois faire vraiment tous mes efforts, je dois me donner à fond, je dois avancer.
Pourquoi tu n'aimes pas cette façon de parler? Il fait sa part, nous faisons la nôtre.
Parce que ça donne l'impression que on fait une équipe et que lui ne pourrait pas faire ce qu'il fait sans ma part. Ce qui a tendance quand même quelque part à revenir sur la glorification de l'homme. J'ai quand même fait beaucoup pour le Seigneur, n'est-ce pas, hein? Ouais, j'ai implanté 3 églises, j'ai évangélisé, j'ai vu 10 000 convertis, j'ai fait des campagnes d'évangélisation où les gens sont venus en foule.
Sauf que Dieu est constant, alors que l'homme est un peu aussi. Lui, il a une constance et lui, on a des hauts et des bas.
Oui, mais même dans mes hauts,
voilà,
c'est tout de Dieu.
Voilà.
Donc, dans un sens, cette formulation est juste. Dieu fait sa part et moi, je fais ma part. Mais c'est en insistant que la part de Dieu, c'est 100%. Et en même temps, j'ai une part qui n'est pas 0%. Et comment expliquer cela? Je ne sais pas.
Oui, je pense qu'il faut qu'on se mette en face de nos responsabilités.
Tout à fait. Absolument.
J'ai une illustration.
Christian.
Par exemple, Noé. Noé, quand il a voulu son salut, il a fallu qu'il le gagne quelque part. Il a fallu qu'il construise son arche.
Bah oui.
Il a fait
ça. Bah oui.
Sinon, il n'y avait rien. Il n'était pas sauvé, lui et sa famille.
On n'a aucun texte dans la Bible qui nous invite. Ah oui, c'est gros ce bateau, hein. Fallait le faire. Hein. En plus, je ne sais pas si tu as déjà essayé de construire un bateau sur une montagne. Mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous invite à la passivité devant Dieu. Allez, je reste là, Seigneur, tu fais ton œuvre, tu me transformes et je serai transformé dans la mesure où tu le veux. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous invite à la passivité dans l'évangélisation. Bon Seigneur, c'est toi qui choisis ceux qui sont sauvés. Donc, moi, j'ai ouvert les portes de l'église. J'attends que tous les convertis que tu vas sauver dans cette ville viennent. Et puis, quelques années plus tard, je dis, dis donc, Seigneur, tu n'avais pas beaucoup dans cette ville. Hein? Il n'y a aucun texte qui va dans ce sens-là. Le message de la Bible à l'homme, c'est vous devez être agressivement actif. Mais vraiment, vous devez avoir cette détermination à vouloir avancer, à vouloir faire, et dans la mesure où vous n'arrivez pas à faire la part intellectuelle des choses, vous faites comme si tout dépendait de vous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Et vous ne pouvez pas résoudre les deux, ça ne fait rien. Vous acceptez les deux parce que la Bible enseigne les deux. Bah oui.
Non, donc, il y a des moyens, d'autres.
Eh oui.
C'est tout. Il faut les mettre, je pense que le Seigneur nous donne, le mettre en pratique, simplement, et puis faire ce que d'autres, on voit que c'est plus haut pour nous de faire des choses, mais c'est pas, je ne peux pas.
Ah oui.
Il faut accepter.
Et on doit comprendre que c'est entièrement de lui, c'est sa grâce. Mais on doit en même temps comprendre que nous sommes appelés à nous engager très activement, à avancer avec une détermination. Aucun chrétien ne va arriver au bout sans cette détermination à dire « Je mets une priorité à étudier la parole, je mets une priorité à prier, je mets une priorité à être dépendant de Dieu, je mets une priorité à me laisser transformer, je mets une priorité à évangéliser. » Et sans cela, rien ne se passera. Et pourtant, c'est Dieu qui fait tout. Comment expliquer ça? Je ne peux pas. Mais on constate les deux choses.
Et puis il va nous récompenser à la fin. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est lui
oui, mais les récompenses... Une des choses que je constate dans la Bible, c'est que systématiquement, les récompenses, la manière dont elles sont décrites, c'est des synonymes du salut. Alors, je mets beaucoup de bémols à cette doctrine des récompenses pour le salut.
La parabole des talents.
Ça, c'est pas dit que c'est une récompense, c'est des responsabilités. En plus, on sait tous qu'on ne base pas sa théologie sur les paraboles, parce que les paraboles sont susceptibles d'être interprétées de manière très différente.
Un enseignement vient de ces paraboles, quand même.
Oui, mais quel enseignement? Parce que souvent, une parabole illustre une chose, mais ce n'est pas dit qu'il faut prendre cette illustration jusqu'au bout. Parce que j'ai entendu, par exemple, des gens qui poussent leur enseignement à partir de la parabole du fils prodigue. Mais vous avez constaté que le fils prodigue, même quand il était dans le pays lointain, il était encore le fils de son père. Donc ce n'est pas l'illustration d'un inconverti qui se convertit, c'est l'illustration d'un chrétien qui s'égare dans le péché, qui doit revenir. Attends, c'est qu'il a voulu faire dire à la parabole ce qui n'est pas dans la parabole. Ça, c'est un principe de base de l'herméneutique. On ne construit pas son enseignement à partir des paraboles, parce qu'on peut mettre dans les paraboles un peu ce qu'on veut. Ben oui. Et là, c'est simplement la limitation de la parabole. Une parabole, c'est une illustration, et une illustration, c'est forcément simplifié par rapport à la réalité. Parce que si l'illustration est aussi compliquée que la réalité, elle n'aide en rien. Or, si elle est simplifiée, elle est forcément faussée. Et si elle est forcément faussée, ça veut dire qu'il y a certains aspects qui sont vrais, mais ne poussons pas la chose trop loin. La parabole des talents montre clairement ce principe que nous ne devons pas rester là passivement en disant « c'est le maître qui fait tout », mais de là à bâtir toute une théologie, doucement. Moi, j'ai grandi avec cet enseignement des récompenses et je mets de plus en plus de bémols à cela. D'autant plus que je suis absolument convaincu que je ne mérite aucune récompense pour quoi que ce soit. Et de toute façon, je suis allergique à la notion de se laisser motiver par des récompenses. Il y a un texte célèbre dans le scoutisme qui vient des catholiques. Excusez-moi, mais enfin, il y a des fois des catholiques qui ont compris des choses très importantes sur le plan spirituel, hein, qu'on appelle la prière scout et qui dit, entre autres choses, Seigneur, fais que... Ah, je ne me rappelle plus des paroles, je devrais le retravailler. Enfin, en gros, c'est que je fasse toujours ce qu'il faut, sans jamais chercher d'autres récompenses que celle de savoir que j'ai fait ta sainte volonté. Ma seule récompense, c'est de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne travaille pas pour les récompenses. Bon, on va poursuivre parce que on a un dernier volet à voir. Philippiens, chapitre 3, et puis Romains, chapitre 8. On commencera avec Philippiens chapitre 3, parce que c'est là où on va passer le moins de temps. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 12 à 16. Philippiens 3, 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quel est le but? La perfection. Ce n'est pas à peu près, ce n'est pas mieux que les autres, ce n'est pas mieux qu'avant, c'est la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayant cette pensée, et si sur quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Ceci est un des multiples textes où Paul utilise comme illustration de la vie chrétienne le monde de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un domaine que j'ai découvert assez tardivement. Je n'étais jamais sportif dans ma jeunesse. Et vers la quarantaine, j'ai commencé avec l'athlétisme. Je suis devenu même entraîneur d'athlétisme, mais dans un domaine très particulier, la marche athlétique. Et je suis devenu sensible, surtout que la marche athlétique, on ne fait pas des marches de 100 mètres. Ça, c'est forcément des trucs très longs. Minimum, mais vraiment, hein, une course qui n'a aucune valeur de compétition. C'est juste un entraînement minimum de kilomètres. Et ça, c'est un sprint pour un marcheur, quoi. Et normalement, c'est 10, 20, 50, 100, 200. C'est très long, la marche. Or, là, ça commence à nous faire comprendre un peu la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est une course de longue haleine. Et Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Ça ne veut pas dire que je ne me rappelle plus. Attention, ce n'est pas pour dire, ah, je ne me rappelais plus de cela. Mais ce qui est fait, est fait. Il y a eu des victoires. Ça fait... Le mois passé, ça a marqué 40 ans que je suis au Seigneur. Bon, bien plus longtemps que ça que je suis dans les églises évangéliques, mais 40 ans que je suis au Seigneur. Dans ces 40 ans, il y a eu des choses qui ont été bien faites. C'est vrai. Il y a eu des victoires, il y a eu des moments de fidélité, il y a eu des moments où j'ai vraiment avancé avec le Seigneur, il y a eu des moments où j'ai été utilisé par le Seigneur, il y a eu des moments où c'était bien. Tant mieux. Mais je ne peux pas vivre aujourd'hui des victoires du passé. En même temps, dans ces 40 ans, il y a eu beaucoup de moments dont j'ai franchement honte. Où je n'ai pas été fidèle comme il fallait. Où j'étais trop passif, voire franchement mauvais dans mon comportement. Et que j'ai discrédité le nom du Seigneur par mon attitude, par ma réaction, par mon action ou par mon inaction. Il y a eu des défaites, des moments où je ne suis pas fier. Mais je ne dois pas me laisser arrêter aujourd'hui à cause de cela. C'est comme quelqu'un qui fait un marathon, pour revenir dans quelque chose que vous comprenez un peu mieux, parce que dans un marathon, au moins on court, on ne marche pas. Hein. Un marathonien, il y a des kilomètres qu'il a mieux réussi que d'autres. N'empêche que s'il dit, ah ben j'ai fait 20 bons kilomètres là, hein, donc là je peux m'essouffler, ben il perd la course. Hein. Mais s'il y a des kilomètres qu'il n'a pas très bien fait, ben ça ne fait rien, il faut continuer parce que tout le monde en a, ce n'est pas dit que c'est perdu parce qu'il y avait un kilomètre là ou ce n'était pas comme il fallait. Et Paul dit, moi en ayant étudié tout cela en détail, j'ai fait une analyse une fois de ce que Paul dit sur l'athlétisme et je suis arrivé à la conclusion que Paul a pratiqué l'athlétisme à haut niveau dans sa jeunesse. Parce qu'il utilise ces termes avec une précision qui ne serait pas normale pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu. Et il utilise la course comme une illustration de la vie chrétienne. Je poursuis ma course, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est bien fait, tant mieux, ce qui est mal fait, tant pis. Je continue, je poursuis ma course, je cours vers le but. Le but est encore devant. Trop souvent, dans l'évangile que nous annonçons, le but c'est la conversion. Or, il ne faut pas s'étonner donc de ce que les gens se convertissent et disent « ça y est, c'est gagné. J'ai fait ce qu'il fallait. Le but c'était de se convertir, je me suis converti. » Ça, c'est un évangile tronqué. Vous savez ce que tronqué veut dire? Ça veut dire qu'il manque un bon bout. Hein? Bien sûr, il faut se convertir. Mais ça, c'est le début de la course. Ça, c'est le pistolet qui sonne. C'est parti maintenant pour 42 km et des poussières. Hein? 42 km! Attends, c'est long ça! Eh oui, surtout vers la fin. Hein? Ah, d'accord. Quand le pistolet sonne, ce n'est pas le moment de dire « Enfin, je peux me reposer !» C'est enfin là que tu te lances dans la course. Pour que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu en nous. Et on a vu ce week-end que le fruit de l'esprit n'est autre chose que l'œuvre de Dieu en nous, qui transforme nos caractères, et que ça, c'est le but. Dieu veut nous transformer pour nous délivrer du péché. Quand le fruit de l'esprit me caractérisera parfaitement, c'est que je suis arrivé au ciel. Donc, l'œuvre de Dieu en moi, c'est de me rendre parfait. Quand nous annonçons ça comme évangile, le but de l'évangile n'est pas de te convertir. Le but, c'est de devenir parfait. Ah oui, mais moi, je ne peux pas devenir parfait. Toi, non. Mais Jésus le peut. La parole le dit. Son sacrifice suffit pour nous délivrer totalement du péché. Donc, on se lance dans la course. Le but est encore devant. Quand Paul écrit cela, il est au Seigneur depuis des années. Hein? Ce n'est pas sur la route de Damas qu'il s'arrête pour écrire ça. Hein? Il ne va écrire « J'ai fini la course » que juste avant sa mort. Sa dernière épître à Timothée, il sait que là, c'est pour ainsi dire fini. Maintenant, je peux dire, enfin, par anticipation de quelque temps, mais pas beaucoup, j'ai fini la course. Mais là, il dit « Je poursuis ma course ». Je continue, parce que le but est encore devant. Et il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix. Et quel est le prix? C'est la vocation céleste. Oh, ça, c'est des mots tellement bien dits qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Alors, vocation, en simple, ça veut dire appel. Et céleste, c'est vers le ciel. C'est-à-dire, le prix, c'est quand je serai appelé vers le ciel. Monte ici, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le but. Le but, c'est de mourir. Enfin, c'est de mourir pour aller auprès du Seigneur. C'est quand je rentre dans l'éternité, quand le Seigneur me dit, entre, et que le Seigneur termine son travail de transformation en moi, et que j'apparais dans sa présence, saint, sans défaut et sans reproche, totalement transformé, et que je serai à ce moment-là que même s'il m'a appelé à courir avec persévérance cette course, qu'en même temps c'était tout de lui, que c'est tout par sa grâce. Et là je pourrais dire, je suis arrivé enfin au but. En attendant, je ne suis pas au but. Donc je dois avancer. Et il dit, nous sommes, nous tous qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire nous tous qui avons de la maturité spirituelle, ayant cette pensée. Forcément, au début de la vie chrétienne, on n'a pas compris grand-chose. Mais pas, quand je pense, je me mets un petit peu dans la tête de ce petit jeune homme d'il y a 40 ans. Et j'étais jeune à l'époque. Juste quelques semaines avant d'entrer en terminale, en train de faire du vélo sur des routes perdues dans la campagne d'où je viens. Moi, je viens de l'Amérique profonde, d'un village avec 1000 habitants et 5000 vaches. En train de faire du vélo en fin d'été, juste avant de rentrer en terminale, en train de réfléchir à des choses. Et ce que j'ai compris qui a provoqué la nouvelle naissance en moi, c'était l'amour personnel de Dieu pour moi. Dieu s'intéresse à moi. Et ça, je n'avais jamais compris. Je savais, Jésus est mort pour mon péché, je peux être sauvé pour aller au ciel plutôt qu'en enfer. Mais je n'avais aucun désir personnel de Dieu. Je ne m'intéressais pas à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire dans tout cela? Bon, c'est lui le maître d'œuvre qui a tout mis en place, je le sais, merci, mais enfin... ça ne me serait jamais venu à l'esprit de dire « j'ai envie d'être avec Dieu ». Moi, j'ai envie d'être au ciel. Mais Dieu, je n'ai pas envie d'être avec Dieu parce que c'est très bien que Dieu, il m'en veut sérieusement à cause de mon péché. Et il a raison, je ne le critiquais pas pour ça. Hein. Dieu est en colère contre moi à cause de mon péché, il a raison. Mais bon, Jésus est mort pour moi, donc je crois en Jésus, comme ça je peux aller au ciel plutôt qu'en enfer. Ouf, mais je ne m'intéressais pas à Dieu. Et quand j'ai compris que Dieu m'aime personnellement, j'ai expérimenté quelque chose sur le coup. Je n'ai pas compris à l'époque que c'était la nouvelle naissance. Je savais que quelque chose d'important s'était passé. Mais comme j'étais élevé dans une notion que tu es au Seigneur, si tu crois en Jésus, ben moi je croyais en Jésus, donc j'étais au Seigneur. Et je n'avais pas compris que tant qu'il n'y a pas ce désir personnel de Dieu, tu n'es pas au Seigneur. Donc, je n'avais pas compris sur le moment que c'était la nouvelle naissance. Mais j'ai compris que quelque chose s'était passé. Hein? Mais vraiment, oh, Dieu m'aime. Là, je m'attache à Dieu. Mais je n'avais pas compris grand-chose de l'Évangile. Hein? Je ne pouvais pas dire à ce moment-là. Et dès cet instant, je veux vivre dans la sainteté parfaite. Seigneur, change mon cœur quoi qu'il m'en coûte. Je n'avais pas compris cela. Et soyons honnêtes, on commence tous comme ça. Hein? On vient au Seigneur avec peu de choses. Même quand enfin le déclic se fait et qu'on passe au-delà de la religion et tout cela à une vraie vie avec Dieu, on n'a pas compris grand-chose. Mais il vient un moment où la maturité commence à se faire, on commence à comprendre quelque chose, et Paul dit, nous tous qui commençons à avoir cette maturité, ayons cette pensée d'avancer. Plutôt que de te réjouir d'être arrivé, comprends que tu n'es pas arrivé, tu es lancé dans la course. Et donc, poursuis ta course. Et si vous avez une autre pensée, Dieu va vous révéler que ça ne va pas ça. Seulement, au point où nous en sommes, avançons ensemble ou avançons d'un même pas. Là, il change un peu d'illustration. Il utilise l'illustration d'un de ces énormes défilés militaires qui se faisaient dans la ville de Rome, parce que les généraux, pour montrer la grande humilité, voulaient que tout le monde les acclame dans la ville de Rome. Donc, ils étaient là avec un cortège qui s'effilait sur des kilomètres. Il y a certains qui sont à des kilomètres derrière, mais avancent d'un même pas. Le plus important, ce n'est pas que tu es devant. Tu es peut-être derrière, peut-être que toi, tu débutes dans la course, mais tu avances. Donc, un texte extraordinaire qui nous invite à avancer très activement. Puis Romains 8, un autre texte qui va dans ce même sens. Alors, pour comprendre Romains 8, il faut comprendre Romains 7. Et pour comprendre Romains 7, il faut comprendre Romains 6. Les chapitres 6, 7 et 8 forment un tout. Alors, je vais vous résumer, parce qu'on n'est pas en cours de Romains, je ne vais pas vous faire une étude détaillée de tout cela, mais pour vous résumer en quelques phrases embêtantes, Romains 6 et 7. Romains 6 dit, en gros, venir au Seigneur, c'est pour entrer dans la perfection. Que le péché ne règne plus, le péché n'a plus d'emprise sur vous. Enfin, Romains 6, c'est vraiment, mais vraiment un texte embêtant. Le but, c'est la perfection. Si Christ nous a sauvés, il nous a donné la victoire sur le péché, donc vivons cette victoire. Voilà. D'accord. Romains 7. Attends. Ça ne marche pas dans ma vie, ça. Je fais la constatation que je suis d'accord avec tout ça. Dans mon fort intérieur, je suis esclave de la loi de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant, mais je suis vraiment engagé. Seigneur, je veux. Mais je constate que je n'arrive pas. Alors, on a l'impression qu'il n'y a que deux possibilités. Première possibilité, c'est que le salut, ça ne marche pas. Jésus nous a sauvés pour nous délivrer du péché. Je viens au Seigneur, je ne suis pas délivré du péché. Donc, ça ne marche pas son truc, quoi. C'est encore une religion qui donne des solutions, qui philosophiquement tient la route, mais qui dans la réalité ne marche pas. Ou l'autre possibilité, c'est que moi, je ne suis pas un vrai chrétien. Quelque part, je suis passé à côté. Parce que le salut délivre du péché. Et je ne suis pas délivré du péché, donc je ne dois pas être dans le salut. Et ça, c'est l'arrière-plan de Romains 8. Romains 8 est construit sur cette tension entre l'idéalisme du chapitre 6 et le pragmatisme désolant du chapitre 7. En Jésus, nous avons une pleine victoire sur le péché. Et pourtant, non, il y a un problème grave. Et Romains 8 dit, en gros, la solution, c'est que ce n'est pas encore fini. C'est ça le truc. C'est que c'est encore devant. On va lire à partir du verset 18, où il sera question des souffrances du temps présent. Replaçons cela dans son contexte. Quelles sont, dans le contexte, les souffrances du temps présent? Ce n'est pas « j'ai mal là, et puis je souffre là, et puis je suis persécuté, et puis je suis au chômage, et puis j'ai eu un échec scolaire ». Ce n'est pas ça. Dans le contexte, c'est quoi les souffrances? C'est le chapitre 7. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La plus grande souffrance pour quelqu'un qui veut avancer dans la vie chrétienne, c'est de dire « Mais je suis désolé, mais déchiré de constater à quel point j'en suis encore loin. » Ça, c'est la fin du chapitre 7. Verset 24 du chapitre 7. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est ça les souffrances dont il parle dans ce contexte. D'accord? Alors, avec tout ça comme arrière-plan, lisons ce qu'il dit. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en nous. » J'utilise normalement la traduction de la Colombe et je la change quand elle ne me convient pas. Ici, elle ne me convient pas. La Colombe traduit la gloire qui sera révélée pour nous, mais moi j'estime que la meilleure traduction du texte original, c'est « en nous ». Attention, « gloire », c'est un de ces mots qu'on utilise très couramment et qu'on ne comprend pas. « Gloire », la gloire de Dieu, veut dire la manifestation visible du caractère invisible de Dieu. Parce que Dieu est invisible. On ne voit pas Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas simplement sa beauté. Oh, qu'il est beau! La gloire de Dieu, c'est quand son caractère parfait, mais invisible, se manifeste. Quand moi, je vis dans la sainteté, je dis, ma vie glorifie Dieu. C'est-à-dire, ma vie rend visible la perfection invisible de Dieu. Donc, quand Paul parle de la gloire qui sera révélée en nous, il parle de ce caractère parfait de Dieu qui deviendra visible en nous. C'est-à-dire que nous serons réellement transformés pour vivre cela. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent. Mais Seigneur, c'est dur, j'essaie d'avancer avec toi et je constate que ce n'est pas toujours ça. Et la gloire à venir qui sera révélée en nous. Il n'y a pas de commune mesure. Pour faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin, c'est tout le livre de l'Apocalypse, ça. L'Apocalypse commence avec une tour des églises, c'est l'état des lieux, les lettres aux églises, et c'est désolant, hein. De la persécution, de l'infidélité, des hérésies, mais tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Jésus dit, je bâtirai mon église, et c'est ça le résultat? Et puis, l'Apocalypse se termine avec cette révélation glorieuse de l'épouse de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem. On a souvent dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est la ville où les chrétiens vont habiter. C'est faux. Le texte dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Les lettres aux Églises montrent les souffrances du temps présent. Mais Seigneur, ça ne va pas dans les Églises. La gloire à venir qui sera révélée en nous, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme une épouse préparée pour l'époux, et puis la perfection qui est décrite. On dit, mais attends, comment est-ce que ça est devenu ça? Ben, c'est que l'agneau a vaincu pour ouvrir les seaux et pour mettre en place tout cela. Et donc l'Apocalypse, c'est un message d'encouragement à l'Église pour dire, toutes les difficultés que vous vivez, ça vaut la peine parce que c'est pour transformer l'Église souffrante et infidèle et troublée actuelle en cette Église glorieuse qui va venir. Et ça, c'est ce que Paul exprime ici dans un seul verset. Même si Jean le fait avec beaucoup plus d'images dans l'Apocalypse, et on ne va pas éliminer l'Apocalypse à cause de Romains 8, 18. Mais n'empêche que quelque part, Romains 8, 18 résume l'Apocalypse. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi la création, là il parle du monde autour de nous, hein, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Vanité, c'est quand il n'y a pas de sens. Quel est le sens de la vie? Lutter pour vivre jusqu'à ce qu'on soit vaincu par cette lutte et qu'on meure. Attends, mais ça vaut quoi ça? La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? C'est Dieu. Genèse chapitre 3, une malédiction sur la terre. C'est Dieu qui a mis cette malédiction sur la terre. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Quand Dieu a maudit la terre, ce n'est pas pour dire, « Bon, vous m'énervez, je casse tout et je m'en vais. » Tout cela est fait dans un but salutaire. La création a été soumise à la vanité avec une espérance. C'est quoi cette espérance? Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre, la terre souffre. Ça va mal dans cette terre. D'accord. Et vivement, un jour où il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ça, c'est l'espérance de la création. Mais, Paul va plus loin que ça, verset 23. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. On va dire, nous, on n'est plus dans cette vanité, hein? On a le Saint-Esprit. Attention, les prémices de l'Esprit, les arts de l'Esprit, dit dans un autre texte. Ceux qui se vantent, j'ai tout eu. Là, j'ai vécu l'expérience de la plénitude du salut, la plénitude du Saint-Esprit, j'ai tout, j'ai tous les dons, j'ai tous les résultats. Je me rappelle une année à l'Institut biblique, j'étais en train de parler des besoins qu'on a les uns des autres. Et je parlais d'un gars que j'avais connu dans ma jeunesse qui, en toute humilité, m'avait dit qu'il avait tous les dons spirituels. Et du fond de la salle, j'entends un qui dit « Ah, lui aussi ?» Ce n'est pas le cas. Hein? Nous avons les prémices de l'Esprit. Et nous aussi, qui avons pourtant les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur. On constate que pour l'instant, ce n'est pas ça. Seigneur, je vois ce fruit de l'Esprit tellement glorieux. Et je constate que c'est bien, il y a de ça dans ma vie, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Or, qu'est-ce que je fais? Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est ce même enseignement. Dans un sens, nous sommes sauvés. Dans un sens, depuis le jour où j'ai expérimenté la nouvelle naissance, je suis sauvé. Il y a des textes qui le disent, où on peut dire, nous sommes sauvés. Dans un autre sens, nous sommes en train d'être sauvés. Le salut est en train de se mettre en place dans nos vies. Et dans un autre sens, le plein salut est encore futur. Nous sommes sauvés en espérance. La pleine réalisation de ce salut, sachant que le salut, c'est être délivré du péché. C'est un processus qui est engagé. Je me pose la question si c'est un processus pour Dieu. Parce que qui dit processus dit que ça dure un certain temps. Or, pour Dieu, le temps n'est pas comme pour nous. Donc peut-être que pour lui, ce n'est pas un processus. Peut-être que pour lui, c'est une transformation immédiate. D'accord. Ça, c'est son point de vue et moi, je ne comprends pas son point de vue. Mais de mon point de vue, moi qui vis dans le temps, c'est un processus. Ça commençait il y a 40 ans, en 72, et encore. Le Seigneur l'avait commencé longtemps, longtemps, longtemps avant ça. Hein. Mais ça a commencé à se manifester dans ma vie à ce moment-là. Et ça avance. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont mieux maintenant qu'il y a 40 ans. Heureusement. Il y a des choses qui sont mieux qu'il y a 30 ans. Il y a des choses qui sont mieux qu'il y a 20 ans. J'espère que dans 20 ans, il y aura des choses encore mieux que maintenant. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore gagné. Le plein salut, la pleine délivrance du péché, la pleine manifestation du fruit de l'Esprit en moi n'est pas encore une réalité. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et on a vu ce matin que c'est une persévérance très active. Ce n'est pas une persévérance qui dit, bon, écoute, on ne se décourage pas, le Seigneur va finir son œuvre, et en attendant, on va organiser des cours de tricotage dans l'église, comme ça on s'amuse bien en regardant la télé et en faisant des beaux gilets pendant que le Seigneur fait son œuvre en nous. Ce que le Seigneur nous préconise, c'est beaucoup plus actif que ça, hein. C'est vraiment des commandos, on va de l'avant, on est motivé pour cela. Ça reste le grand défi pour l'Église et ça restera toujours le grand défi pour l'Église. C'est désolant de le constater, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours une majorité de croyants qui sont plutôt passifs. Il ne dirait pas comme ça. Il dit, mais si. Oula, moi j'aime bien des messages comme ça. J'aime bien le Seigneur. Le Seigneur transforme mon cœur. N'empêche que quand on voit comment les priorités se manifestent dans la vie de tous les jours, on se demande ce qu'il en serait. On est parfois étonné par... les gens qu'on croyait vraiment engagés, les premiers grands obstacles, ils s'en détournent et on dit « Ah ben dis donc, ah ben dis donc. » Ça fait 20 ans que j'enseigne les cours à IBG, j'en ai vu des devoirs. Bon, il y a aussi certains devoirs que je n'ai jamais vus, ils ont eu zéro. Mais il y en a qui étaient franchement minables. Il y en a un que je lui ai donné 4 sur 20 et j'étais gentil. Mais j'en ai vu aussi d'extraordinaires. Et il y en a un dont je me rappelle, c'était le meilleur devoir que j'ai jamais vu. Mais vraiment, j'étais ébahi. Mais ébahi. Je dis, mais attends, ce gars-là, il pourrait enseigner le cours à ma place. Hein? Mais oh, ça, c'est extraordinaire. Moins de 6 mois après avoir terminé l'Institut biblique, il a abandonné le Seigneur. On ne comprend pas. En même temps, je me rappelle quand j'étais encore dans l'église à Champfleury, il y a longtemps, longtemps, il y avait une petite dame qui commençait à venir à l'église. Elle avait une fille qui fréquentait l'église quelque temps avant. Et puis, la fille a fini par se détourner du Seigneur, a abandonné tout cela. Mais elle avait parlé à sa maman de cela et sa maman a commencé à venir à l'église. C'était une dame qui semblait assez limitée sur le plan intellectuel. De toute façon, ce n'était pas une grosse tête, ça c'est clair. On va dire, ce n'était pas le type de personne, on va dire, ça c'est vraiment une chrétienne comme ça qu'il nous faut dans les églises. Elle ne faisait pas de bruit, elle parlait mal, elle avait même un défaut de prononciation, etc. Et puis j'ai commencé à découvrir au fil des années ce qu'elle vivait à la maison avec ses deux fils adultes et son mari, qui lui menait une vie dure pas possible. Les fils se moquaient de leur mère ouvertement et méchamment devant tout le monde à cause de sa foi. Le mari menaçait de la mettre dans la rue, mais vraiment, elle vivait une situation abominable. Et je l'ai appris parce qu'un de ses fils s'est converti et m'a raconté comment ça s'est passé, ce qui se passait à la maison. Hein. Bon, là, on voit la grâce du Seigneur que ce fils est passé de celui qui se moquait de sa pauvre mère. Vous imaginez, se moquer de ta propre mère comme ça à la maison? Mais ça, c'est... Et comment est-ce que la grâce a touché un tel cœur? J'en sais rien, mais c'était remarquable. Et là, j'ai compris que... Elle tenait ferme, mais vraiment ferme, dans une situation où beaucoup s'en seraient détournés depuis longtemps. Mais, malgré cela, même si on ne sait pas le fond du cœur de tout le monde, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette persévérance, qui n'ont pas cette détermination, qui n'ont pas cette avancée active. Ils suivent le mouvement. Ils viennent à l'église. L'église, c'est sympa. On passe beaucoup de temps à critiquer les églises. C'est une des choses qu'on aime bien faire en tant qu'évangélique. On aime bien relever ce qui ne va pas chez nous. Et c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Mais je vais vous dire une chose. Les églises évangéliques, même s'il y a des critiques, il y a des méchancetés, il y a un tas de choses, c'est des véritables havres de paix à côté de ce qui se passe dans le monde. Et beaucoup de gens viennent dans l'église parce que c'est le seul endroit où ils sont acceptés tels qu'ils sont. Mais ces gens sont formidables, ils sont gentils, ils sont sympas. Donc, ce n'est pas pour excuser tous les problèmes dans l'église et ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas travailler ces problèmes. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, pas parce qu'ils cherchent le Seigneur, mais parce qu'ils trouvent cette ambiance sympa. Et puis c'est super, oh, mais on y est bien, on va suivre des études bibliques, on va faire des choses. Oui, parce qu'on est tellement bien dans cette ambiance. Mais est-ce vraiment une détermination à courir avec persévérance vers le but? Est-ce vraiment cette détermination à dire, Seigneur, transforme mon cœur, change-moi? Parce qu'il faut savoir que la course... n'est pas une course facile. La course ne se fait pas sur une piste intérieure où on n'a pas trop de soleil, pas de pluie, tout va bien, les pistes c'est en caoutchouc, c'est très agréable pour courir. Hein. La course que nous faisons, c'est comme celui qui fait une course en montagne avec des montées, des descentes, des intempéries, des difficultés. C'est dur parfois. Vous savez, il y a des gens embêtants dans la vie. On en a tous connu. Il y a des gens qui nous cassent les pieds. Il y a des gens qui nous embêtent. Vous savez quelle est la personne qui m'a le plus embêté dans ma vie? C'est Jésus-Christ. Ben oui. Il ne m'a jamais laissé tranquille. Il m'embête. Il me pourchasse pour que je change quelque chose. Et quand finalement je cède et je dis, d'accord Seigneur, je mets de l'ordre dans cela. Enfin, je suis en règle. Et peu de temps après, il dit, en fait, il y a encore telle chose. Et puis, moi, je sers le Seigneur. Attends, j'ai laissé mes études, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon pays, j'ai dû apprendre une autre langue. Tout ça pour servir le Seigneur. Puis je viens en France. Et puis, en fait, en France, on vit bien. On a du bon fromage, on a du bon pain, les Français sont sympathiques. Il y a le café un peu partout dans le monde. C'est la photo brésilienne. Et puis je m'installe et le Seigneur dit, t'es trop confortable ici. T'as entendu parler de Madagascar? Et il ne se passe presque pas une année à Madagascar sans que j'arrive à frôler l'épuisement. Je le sais avant d'y aller. Parce que je pars en brousse dans des endroits où ils sont étonnés de voir un blanc qui vient là pour faire une formation. Il dit, attends, nous on nous dit de venir dans la grande ville pour avoir une formation. Et toi, tu viens ici. Eh oui, mais à quel prix? Parce que physiquement, c'est dur. Et puis, sans parler des risques de maladie, hein, parce que on vit dans un monde aseptisé ici en Occident et on va là-bas. Je sais que la maladie fait partie de mes visites. Alors je vis dans des situations physiquement éprouvantes et en même temps avec des maladies. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là? Parce que tu es trop confortable. Tu étais en train de t'installer. Tu étais en train de trouver qu'après tout, tu étais prêt à tout sacrifier pour devenir missionnaire et puis tu as découvert qu'à la longue, tu n'as rien sacrifié du tout. Hein. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, tu as tout ce qu'il faut, tu es très confortable. Hein. Alors, va là-bas. Et puis je constate quelque chose.
Donc ça s'applique seulement aux missionnaires.
Oh, pas qu'aux missionnaires, ça s'applique à tout le monde. Mais je parle de mon expérience personnelle. Le problème, c'est que peu à peu, je commence à m'habituer à Madagascar. Et je dis, qu'est-ce que le Seigneur va faire le jour où je suis habitué à cela? Mais c'est pour dire, le Seigneur est toujours celui qui m'a embêté le plus. Parce qu'il ne me laisse jamais tranquille. Parce qu'un jour, je lui ai dit, Seigneur, je cède, j'accepte que ta volonté soit faite. Et ce n'était pas à ma conversion, hein, c'était des années plus tard, où j'ai dit, d'accord Seigneur, je constate, alors vas-y, fais ce que tu veux, mais je marche avec toi. Il a dit, c'est vrai? C'est vrai, vas-y. Et il a passé son temps à m'embêter. Je suis un très mauvais évangéliste parce que je dis aux inconvertis que se convertir, c'est comme avoir un éléphant à la maison. Il prend beaucoup de place, il ne te laisse pas tranquille, tu ne peux pas le ranger tranquillement dans un coin où il ne dérange rien. Avoir le Seigneur dans ta vie, il va bouleverser des choses. Mais c'est ça la question. Le fruit de l'esprit m'embête. Parce que ça va à l'encontre de tous mes intérêts. Tu dois penser à l'autre. Ah oui, mais ça me fatigue ça. Hein? Puis il faut penser à moi parfois. Hein? Puis ce sont des choses légitimes en plus. Attends, ce n'est pas un péché ça. Hein? Ce n'est pas un péché d'avoir une vie un peu tranquille parfois. Et puis gagner un peu d'argent, attends. Hein? On me dit, bon, on ne peut pas vivre avec le SMIC en France. Attends, hein, j'ai élevé mes enfants avec le SMIC. Hein. Maintenant que ma femme travaille, on a l'impression de vivre dans l'opulence. Hein, parce que, et pourtant, on n'a pas encore assez de revenus pour payer des impôts sur le revenu. Mais à côté de ce qu'on a vécu quand les enfants étaient jeunes, on a l'impression qu'on fait partie de la classe riche. Seigneur nous demande de lâcher même des choses légitimes pour que sa vie se manifeste en nous. Alors, dans un sens, on arrive à la fin de notre week-end, et dans un autre sens, on arrive au début. C'est-à-dire, je vous ai donné la matière à appliquer, et que tu sois dans ta vie chrétienne, c'est pour moi aussi. Je ne peux pas dire, oui, mais moi, heureusement que j'ai fait tout ça, vous avez à faire autant. Le Seigneur continue de m'embêter tout autant. Et même que tu dis, ah, mais moi, j'ai tout donné pour le Seigneur, tu n'as jamais tout donné pour le Seigneur. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est de dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme-moi, enlève ce qu'il faut enlever, change ce qu'il faut changer, reprends-moi là où il faut me reprendre, fais ton œuvre en moi, parce que je désire être délivré du péché, je désire que ta vie se manifeste en moi, je désire que le fruit de l'esprit devienne une réalité en moi. Alors voilà un programme pour la suite qui n'est pas un programme facile. Alors vous pouvez monter dans les voitures, rentrer à la maison et dire, oh, on a vécu un très bon week-end et on reprend le train quotidien. Ou vous pouvez dire, d'accord Seigneur, embête-moi encore plus qu'avant, je suis disponible, tranche là où il faut trancher, coupe là où il faut couper, brise là où il faut briser, mais change mon cœur, parce que je veux la victoire sur ces souffrances du temps présent, ce péché qui est là et qui m'empêche de vivre pleinement la vie du Seigneur. Alors, à nous de voir où on va avec tout ça.